Cours de philosophie première par le Père Philippe à Saint-Jodard, le 21 novembre 89.
Tel qu'il a été pensé par Dieu et tel qu'il se présente à nous, c'est une manière de rejoindre la sagesse de Dieu. Un ami qui enseigne à Paris, en faculté de médecine, me disait que pour lui, la recherche de la science biologique, c'était pour rejoindre constamment la sagesse de Dieu sur le vivant. C'est très beau comme intention, mais c'est pas toujours commode. Oui, surtout dans les recherches génétiques d'aujourd'hui. Mais c'est très juste. Toute science doit être polarisé pour un chrétien dans cette découverte de la sagesse de Dieu. Tout a été pensé par Dieu, jusqu'aux petites bêtes du bon Dieu. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que le Père Céleste ne le permette. Donc tout a été pensé par Dieu. Quand nous recherchons ce qu'est l'être, ce qui est en tant qu'être, nous essayons d'atteindre ce qui a été le plus profondément pensé par Dieu dans la réalité. Il ne faut jamais oublier ça. Alors cette recherche que nous faisons au plan philosophie première, c'est essayer de comprendre ce qu'est l'homme dans son être, dans son existence actuelle. Pas si commode, puisque plus personne ne le fait aujourd'hui. Très peu, du moins, très peu. Plus personne, c'est un peu exagéré. Mais il n'y en a plus beaucoup qui vraiment recherchent cette sagesse philosophique dans ce qu'elle a de plus pointu, de plus pénétrante. Saisir la substance, saisir l'être en acte, saisir ces deux grands axes de l'être en tant qu'il est. Il ne faut pas oublier que Dieu, à Moïse, s'est nommé « Je suis celui qui est ». C'est quand même très étonnant, ça. Je sais très bien qu'aujourd'hui, on essaie de regarder ça d'une manière négative. Puisque certains exégètes disent, quand Dieu dit ça, Dieu dit, je ne veux pas me nommer. Je crois que si Dieu n'avait pas voulu se nommer, il l'aurait dit de façon plus simple. Il aurait tout simplement, non, je ne me nomme pas. Quand Dieu dit, je suis celui qui est, Dieu veut dire à Moïse qu'il est, au sens le plus fort, et que Dieu seul peut dire, je suis celui qui est. Vous ne pouvez pas dire ça, sauf Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a que lui qui pourrait dire ça. Oui, parce que quand il dit « Regardez-moi bien, je suis l'homme », vous n'avez qu'à me regarder et vous comprendrez ce que c'est que l'homme. Alors une fois qu'il dit ça, il pourrait aller un peu plus loin, il pourrait presque dire « Je suis, regardez-moi ». Ouais, c'est intéressant de voir ça, parce que ça montre que la philosophie peut aboutir à un orgueil radical. Et la philosophie peut aboutir, la métaphysique, à une humilité radicale. Si vous cherchez ce qu'est la réalité, ce qu'est l'homme du point de vue de l'être, vous aboutissez normalement à une très profonde humilité. C'est le respect de ce qui est en tant qu'il est. Et le respect de ce qui est en tant qu'il est rejoint la sagesse de Dieu. Puisque Dieu regarde tout dans cette perspective-là. Comme créateur. Comme créateur, Dieu regarde la réalité en tant qu'elle existe. Dieu me regarde en tant que j'existe. Quand même étonnant et impressionnant. fois que nous découvrons un peu plus profondément l'homme, moi-même, puisque l'homme, c'est moi, c'est mon laboratoire. Je ne dis pas que je suis tout homme, mais l'homme que je le découvre en moi. Ce qui me permet de le découvrir aussi dans les autres et de le respecter dans les autres. Chaque fois que je découvre un peu plus profondément l'être en moi, je m'approche du regard de la sagesse de Dieu. Pour aboutir au terme de la philosophie, à ce regard de sagesse. Donc, nous étions dans cette recherche de l'être en acte, qui est la fin de ce qui est. J'ai bien insisté la dernière fois sur ces deux grandes découvertes au niveau de la philosophie première. La substance, principe propre selon la forme de ce qui est. Principe propre selon la forme de l'homme en tant qu'être. Et cette substance de l'homme en tant qu'être, c'est mon âme. C'est pour ça que je ne peux pas abandonner, comme on le fait trop aujourd'hui, je ne peux pas abandonner ce regard sur l'âme. Puisque c'est à la racine de mon être, l'âme principe de vie et principe d'être. Puisque pour moi, mon être, c'est ma vie. Et d'autre part, je découvre l'autre aspect ultime de ce que je suis en tant qu'être, l'être en acte. L'être en acte, c'est encore mon âme. L'âme est à la fois ma substance et mon acte. C'est du reste très impressionnant, ça. De découvrir que mon âme, c'est ce qui m'actue. D'une manière ultime, du point de vue de l'être. Alors, si je précise ensuite que mon âme est esprit, et je l'ai fait en philosophie du vivant, même si vous ne l'avez pas encore fait, je l'ai fait en philosophie du vivant, j'ai découvert que mon âme était une âme spirituelle. Quand je dis une âme spirituelle, je veux dire qu'il y a dans mon âme quelque chose qui est au-delà du corps. Mon âme qui informe mon corps est en même temps quelque chose qui dépasse le corps. Et vous voyez, elle est acte. Parce qu'elle dépasse mon corps. En tant qu'elle informe mon corps, elle est ma substance. En tant qu'elle dépasse mon corps, elle est acte. C'est-à-dire qu'elle finalise toute ma vie humaine. Et en comprenant bien que c'est mon âme spirituelle qui est, elle, capable d'atteindre mon bien ultime, ce qui me dépasse. Je dis ça pour que nous comprenions mieux ce que je vous disais la dernière fois, qu'il y a 5 modalités de l'être en acte. Je reprends ça puisqu'il y a une question là-dessus. L'être en acte est à la fois laissé, je ne traduis pas, ou plus exactement, traduisez « exister », mais en sachant bien que certains thomistes n'aiment pas l'identification des deux. Surtout Fabreau. Il faut le savoir, puisque Fabreau est président de l'association thomiste vers le monde entier. Avant, c'était toujours le maître général de l'ordre de Saint-Dominique. Mais le maître général de l'ordre de Saint-Dominique étant un Irlandais qui a peur d'être Irlandais. Il y a des Irlandais comme ça qui ont peur d'être Irlandais. Parce qu'on leur dit, ah, vous êtes dans la doctrine, vous êtes dans... Alors il a voulu démissionner. Et alors c'est Favreau, le père Favreau, l'abbé Favreau, il n'est pas dominicain, mais il est thomiste dans le fond de son cœur. Je dis bien dans le fond de son cœur, par l'intention. Parce que dans son intelligence, on peut de temps en temps dire que c'est pas tout à fait ça. C'est normal, ça, ça fait partie des difficultés d'aujourd'hui. Donc, laissez exister. Moi, je n'hésite pas de dire que exister, c'est tout simplement l'acte d'être au plus intime de moi-même. Laissez la bonté, le vrai ou le bien. Mettez le vrai, mettez le bien, c'est plus juste. Le bien, le vrai, les opérations vitales, le mouvement. Il y a donc cinq modalités. Et c'est très important de voir ça. Et d'y réfléchir un peu. Nous l'avions vu l'année dernière, tout au long. De sorte que maintenant, je vais vite. C'est un rappel pour ceux qui l'ont vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est un apéritif métaphysique. Hein. Leur donner un désir de pénétrer dans ces cinq modalités qui reprend toutes les parties de la philosophie du point de vue de l'être en acte. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce qu'on va me dire, ça fait partie de l'interrogation, mais comment vous arrivez à ces cinq modalités? C'est évident, je n'y arrive pas intuitivement. Ce qui m'a donné la puce à l'oreille, c'est que, de fait, si je regarde attentivement le livre d'État d'Aristote, ces cinq modalités sont présentes. Le livre d'État d'Aristote, vous savez bien, c'était le livre que Heidegger, chaque année, faisait un séminaire sur ce livre. Il n'acceptait que les étudiants qui savaient le grec, parce que c'était le livre d'État en grec d'Aristote qu'il voyait, et qu'il considérait comme le sommet de toute la pensée philosophique grecque. C'est intéressant de voir ça chez quelqu'un comme Heidegger, et qu'il considérait que pour lui aussi, c'était le sommet. C'est pour ça que chaque année, il voyait le livre d'État. Si on avait le temps, on devrait faire la même chose ici. Parce que ce livre d'État est vraiment à un sommet de la pensée. Eh bien, si je regarde attentivement ce livre d'État d'Aristote, je vois qu'en effet, il y a l'exister. Le to enein. Il y a le bien, il y a le vrai, il y a les opérations vitales, il y a le mouvement. Tout est présent, mais ce n'est pas ordonné du tout. Aristote, vous savez bien, c'est quand même quelqu'un qui est le premier à découvrir ces choses très profondes. Et alors, quand on découvre en premier lieu, on n'a pas le temps d'ordonner. Si vous voulez me suivre, suivez-moi, c'est tout. C'est comme ça quand on découvre. Hein. Ensuite, on met en ordre. Et depuis Aristote, il faut bien se le dire, hein, le livre d'État est resté pour beaucoup un sommet. Aristote considère que la découverte de l'être en acte représente l'induction synthétique analogique. Donc c'est l'induction ultime de la philosophie. On découvre la fin. Télos. On découvre la fin de ce qui est. On ne peut pas aller plus loin. Ce qui est ultime. dans l'ordre de l'être. Et ceci se fait grâce à une ascension encordée. Vous voyez, c'est une montée synthétique, donc encordée, et analogique à des paliers différents. Et tout repose sur cette simple expérience de tous les jours. Je dors, je m'éveille. Évidemment, vous dites plutôt, je m'éveille, j'ai dormi. Et tous les jours, vous dites ça. Et si vous réfléchissez là-dessus, vous devez découvrir en profondeur l'être en acte, l'être en puissance. Alors, pour mieux découvrir, on prend toute une série d'exemples. Je suis capable de contempler, je contemple. Je suis capable de construire, l'architecte, je construis. Et ainsi de suite, je suis capable de voir et je vois. Tous les exemples que vous pouvez. Et c'est toutes les parties de la philosophie qui sont reprises pour cette ultime ascension, cette montée ultime de l'intelligence qui, dans cette induction, atteint l'être en acte, energeia. Donc il faut toujours se rappeler ça. Hein. Vous n'avez pas l'intuition de l'être en acte, mais vous découvrez l'être en acte à travers tous les états potentiels qui sont en vous. Quand vous dormez, vous ne le savez pas très bien au point de vue de votre conscience, mais au point de vue de votre être. Quand vous dormez, vous êtes tout entier ordonné au réveil. Et si vous aviez une conscience métaphysique, vous seriez dans la joie de vous réveiller. Ce qui n'arrive pas toujours. Ça, c'est merveilleux. Je me réveille. Ça, c'est la conscience métaphysique de l'être. Mais comme nous ne l'avons pas, mais elle existe, hein. Au-delà de ma conscience psychologique, mon être est fait pour se réveiller. Sauf si je suis freudien. Pour Freud, l'être est fait pour dormir. Ça explique beaucoup de choses. On n'a pas cette conquête, cette montée. On est fait pour être éveillé. Être en acte. Être en acte. Je suis fait pour construire. Être en acte. Je suis fait pour voir. J'ai de la joie à voir. C'est comme ça qu'Aristote commence la philosophie première, la métaphysique. Pour montrer que la connaissance spéculative possède en elle-même sa propre finalité. On a de la joie pour voir. On a de la joie pour contempler. Oui, c'est ça qui exprime ce qui achève l'être. L'être est tout entier tendu vers le point de vue de l'être en acte. C'est très beau, ça. Oui. Marie, qui s'offre à Dieu, elle est en acte. La présentation de Marie, c'est un mystère où Marie est en acte. On ne peut pas être plus en acte que de s'offrir à Dieu. C'est pour ça que la profession, c'est d'être en acte. Ce qui est le plus beau, on n'a qu'à dire ça tout à l'heure. J'aurais qu'à dire ça. Vous êtes en acte, vous savez. Et tout le monde comprendra que c'est ce qui est le plus grand. On atteint un sommet, être en acte. Et que tout le reste, tout le noviciat, je ne dis pas qu'on dormait, mais tout le noviciat est fait pour être en acte, la profession. Et toute notre vie est faite pour qu'on vive à ce sommet, qu'on peut aller toujours plus loin, peut toujours aller plus loin. Être en acte, il n'y a pas de limite. Être en acte, l'être en acte, aboutit si on est fidèle à cette découverte. On aboutit à dire nécessairement, il y a un être qui est acte pur. Celui que les traditions religieuses appellent Dieu. Les traditions religieuses appellent Dieu, le Créateur. Et le philosophe découvre l'acte pur. C'est la même réalité. Il ne faut pas dire le Dieu des philosophes et le Dieu de la foi. Ça, c'est pas tout à fait juste. Dieu ne peut être que Dieu. Il n'y en a pas deux. n'y a pas le dieu des philosophes et le dieu des traditions religieuses. Donc, la découverte que l'intelligence fait de l'être en acte me met sur l'orbite, l'acte pur, si je pousse. Tandis que la découverte de la substance ne me mène pas jusque-là. La découverte de l'être premier, c'est toujours par le point de vue de l'acte. Une fois que je fais cette découverte, j'essaie de comprendre comment toute la philosophie conduit à cela. Et ce sont ces cinq modalités de l'être en acte. L'essai, toute la métaphysique de la substance conduit à l'essai. Je ne reviens pas là-dessus, nous l'avions vu la dernière fois. Le propre de la substance, c'est de subsister, c'est-à-dire d'avoir son exister propre. C'est l'acte substantiel de moi-même, ça. J'existe. Quand je dis j'existe, il y a quelque chose de fondamental que je découvre en moi. J'existe. J'aime pas beaucoup dire ça au point de vue métaphysique, mais ça fait comprendre. J'ai un droit à l'exister. Et dès le premier instant de ma conception, j'ai eu un droit à l'exister. Un droit sacré. Même si mon âme n'était pas immédiatement là, j'ai un droit sacré. Et un droit qui vient de Dieu, tout de suite. C'est ça qui est si extraordinaire. Un droit à exister. Mon âme actuelle qui est en moi me donne un droit à exister. Dans mon corps, dans tout ce que je suis. Ensuite, le bien. Alors voilà la question posée. Hein. Au dernier cours, vous avez dit les cinq manières dont l'être en acte se manifeste à nous. L'essai, le bien, le vrai, les opérations vitales, le mouvement. Pourquoi cet ordre? Si l'on peut comprendre assez facilement pourquoi l'essai est premier, puisque l'on part de l'être en acte dans le jugement d'existence, pourquoi le bien est-il avant le vrai? Ah, je comprends bien. Vous aimez le vrai plus que le bien. Moi, j'aime le bien plus que le vrai. On pourra discuter là-dessus. Hein. C'est vrai qu'Aristote dit « Platon est mon ami, mais j'aime plus le vrai que Platon. Hein » Donc, Aristote met le vrai avant le bien. Faut faire attention. C'est l'ami, c'est pas le bien. Hein, faut faire quand même un petit peu attention là-dessus. Pourquoi le bien est-il avant le vrai? Est-ce parce que le bien et le vrai sont les deux divisions de l'esprit? Oui, sûrement. Le bien et le vrai regardent l'esprit, c'est-à-dire mon âme spirituelle. C'est pour ça que je vous ai rappelé tout à l'heure que je découvre l'âme spirituelle. Mon âme informe mon corps en tant que substance et les sources de l'essai. Mais mon âme est spirituelle. Et mon âme spirituelle a sa finalité propre dans le bien. Si l'être en acte est fin, le bien, si j'ose dire, est fin de ce que je suis en tant qu'esprit. Et il est fin de mon intelligence. Mais l'esprit implique la volonté et l'intelligence. Dans un ordre de perfection, le bien est plus que le vrai. Puisque le bien, c'est le bien de la réalité existante. Le bien est ultime. Je prends encore une autre raison pour que vous compreniez. Les deux extrêmes de la philosophie, c'est la philosophie première, donc la métaphysique et l'éthique. Je vous ai déjà dit qu'il faut toujours voir en parallèle l'aspect philosophie première, métaphysique de ce qui est, en tant qu'il est. Et l'éthique, c'est la fin de l'homme. Quel est le bonheur de l'homme? C'est l'éthique qui étudie ce qui finalise l'homme. Qu'est-ce qui finalise l'homme? C'est son bonheur. Le vrai bonheur. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent un faux bonheur. C'est pour ça qu'en éthique, on chasse tous les faux bonheurs. Est-ce que le bonheur, c'est la gloire? Est-ce que le bonheur, c'est l'argent? On écarte tout ça. Quel est le vrai bonheur? C'est de découvrir progressivement l'homme comme un ami. Le bien de l'homme, c'est la personne. Seule la personne humaine peut être le bien de l'homme. C'est la première découverte. Et puis dans la mesure où j'ai découvert l'existence d'un être premier, la contemplation liée à l'adoration et le bonheur de l'homme. Il y a deux fins. Une fin proche et une fin ultime. Or, la fin n'est pleinement fin que quand elle est ultime. C'est sûr. Ça le demande. Donc vous voyez que les deux extrêmes de ma philosophie, philosophie première et éthique, me permettent de dire tout de suite que l'être en acte est d'abord essai, puis le bien. Le bien spirituel présuppose la vérité, c'est bien évident, dans un ordre génétique, mais pas dans un ordre de nature. Or, je suis en philosophie première, ayant découvert l'être en acte, je dois donc donner un ordre de nature. Et l'ordre de nature, c'est l'essai, c'est le bien. Le bien qui finalise l'âme spirituelle. L'âme spirituelle est faite pour découvrir son bonheur, son bien, le bien ultime. En philosophie première, je ne regarde pas le bonheur, ça c'est l'éthique. En philosophie première, je regarde qu'est-ce qui fonde le bonheur, le vrai bonheur. Oui, si j'aime un bien apparent, ça arrive, un bien qui me séduit, je m'aperçois au bout d'un certain temps que ce bien ne répond pas à mes aspirations. J'ai été trompé. C'est un bien fallacieux. Ça n'a pas arrivé, ça. Il y a des gens qui sont pris par le brillant. Ils aiment une personne parce qu'elle est brillante. Dangereux, très dangereux. C'est pas l'esthétique qui finalise l'homme. Momentanément, quand on est jeune, c'est le brillant. Puis on s'aperçoit que ce brillant n'est que brillant. Il n'y a que l'apparence. Il n'y a pas la réalité profonde. Donc c'est pas un bien véritable. Et alors ça ne peut pas nourrir mon bonheur. Je suis séduit par la gloire, mais la gloire ne peut pas être mon vrai bien. Parce que la gloire, elle n'est qu'un bien secondaire, apparent, qui dépend des autres. C'est les autres qui me glorifient. Quand je me glorifie moi-même, ça ne va pas très loin. Parce que les autres ne sont pas d'accord. La gloire vient des autres et me met en dépendance des autres. Donc c'est pas mon vrai bien. C'est un bien qui ne me peut pas me finaliser, qui ne peut pas m'apporter ce qui permet à ma personne humaine d'aller jusqu'au bout. En philosophie première, j'étudie ce que c'est que le bien du côté de l'être. Et je vois que le bien, c'est l'être dans sa plénitude d'être, capable d'attirer un autre. Le bien, au point de vue métaphysique, c'est nécessairement l'esprit. Ça ne peut être que l'esprit. parce que le bien physique est corruptible. Donc il n'est pas l'être en acte. L'être en acte ne se trouve que dans une réalité incorruptible. Seule une réalité incorruptible peut l'être en acte. Pourquoi? Parce que l'être corruptible implique toujours la potentialité. C'est pour ça que la seconde modalité de l'être, c'est le bien spirituel. Le bien comme tel ne peut être que spirituel, au-delà de la corruptibilité. Et ce bien spirituel, c'est une personne. C'est pour ça que la métaphysique, là, saisit le bien spirituel comme une personne. C'est pour ça qu'un ami, qui est une personne humaine, peut être un véritable bien, qui m'apporte un bonheur, qui me finalise. Et s'il y a une personne plus parfaite que la personne humaine, c'est-à-dire si Dieu existe, il est une personne parfaitement spirituelle, incorruptible, immuable, et lui seul peut me finaliser pleinement comme esprit. C'est pour ça que c'est si important de saisir que la seconde modalité de l'acte, c'est le bien, qui me montre ce qu'il y a d'ultime dans l'être. C'est très important de saisir que l'essai, c'est l'être en acte fondamentalement. Il n'y a pas d'être en acte sans l'essai. Condition sine qua non pour que l'être soit en acte, c'est l'essai. Et l'essai premier, c'est l'essai substantiel. Mais ce n'est pas ce qu'il y a d'ultime. Ce qu'il y a d'ultime, c'est le bien, capable de me finaliser. Parce que l'essai n'est pas ce qui me finalise. Je ne peux pas dire j'existe, donc je suis en moi-même ma propre fin. Pourquoi ne puis-je pas dire ça? Parce que mon exister est corruptible. Si mon exister est corruptible, je suis capable de mourir. Et ça, je le dis en philosophie du vivant. Je suis capable de mourir. Si je suis capable de mourir, si j'ai en moi la marque de la corruptibilité, c'est comme dans les troupeaux, la brebis qui doit être abattue, la tache rouge dessus. Je suis marqué par la mort. Chacun d'entre nous. C'est pas très drôle à regarder, mais c'est comme ça quand même. En philosophie première, on peut le regarder du point de vue de la Dieu, je suis corruptible. Donc je ne peux pas être le bien plaigné. Je ne peux pas être l'être en acte. C'est pour ça que je ne peux pas être le bien absolu. Et c'est pour ça que je ne peux pas me finaliser. Mon esprit est plus que moi. C'est vrai. Puisque moi, je suis un être corruptible. Quand je dis je suis un être corruptible. Et mon esprit réclame l'incorruptibilité, un bien qui ne périsse pas, un bien qui est au-delà de la corruptibilité. Si mon esprit cherche un bien qui est au-delà de la corruptibilité, je vais chercher quel est ce bien. Mais comme c'est important de voir comment, au point de vue métaphysique, la seconde modalité de l'être en acte, c'est le bien. La troisième modalité, c'est l'être vrai. Pourquoi? Parce que le bien, je ne peux le saisir que si je le connais. Oui, condition sine qua non. Mais le vrai ne détermine pas le bien. Je suis finalisé par le bien et pas par le vrai. Mais pour être finalisé par le bien, il est nécessaire de connaître le vrai. De connaître le vrai bien. Il faut connaître le vrai bien. mais ce n'est pas le vrai bien que je connais qui me finalise. C'est le bien et non pas la connaissance que j'ai du bien. Ce qui est très très important, ça. Tous les divorces viennent de là. Toutes les fêlures dans l'amitié viennent de là. C'est qu'à un moment donné, on regarde plus la connaissance qu'on a du bien que le bien lui-même. Parce que quand vous regardez la connaissance du bien à l'égard d'une personne humaine, vous vous apercevez assez vite que cette personne humaine est limitée dans sa bonté. Vous aviez idéalisé. Les fiancés idéalisent toujours. Ils idéalisent. Mon grand-père me parlait tout le temps d'un de ses amis qui était soif pontifical et qui disait qu'il ne se marierait qu'avec Miss Idéal. Il faut toujours penser à Miss Idéal. Alors tous les amis se rigolaient, hein, Miss Idéal. Tu la rencontreras jamais, Miss Idéal. Puis un beau jour, il a déclaré qu'il se mariait. Alors tous les amis ont été voir Miss Idéal. Et les amis ont vu que c'était pas Miss Idéal. Et j'ai connu Miss Idéal, qui n'était pas Miss Idéal, c'est évident. Puisqu'elle est morte. Elle portait en elle la marque de la corruptibilité. Ce qui est très gênant pour Miss Idéal. La corruptibilité, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, moi je l'ai connue quand elle était âgée, c'était facile de voir que c'était pas Miss Idéal. Parce que... Le printemps très beau n'annonce pas toujours l'automne magnifique. Il y a des rides. La marque que Miss Idéal n'est pas Miss Idéal. C'est très important, ça. Vous voyez, de voir le hiatus qu'il y a entre la connaissance du bien et le bien lui-même. Ce qui m'attire, c'est le bien qui existe. Et quand je suis attiré uniquement en fonction de la connaissance que j'ai de ce bien, c'est ma connaissance qui détermine mon amour et non pas le bien. C'est capital, ça. Si tous les fiancés comprenaient ça, il y aurait beaucoup moins de divorces. Il y aurait peut-être moins de mariages. Mais s'ils comprenaient vraiment ça, que de fait, la connaissance qu'on a du bien n'est pas adéquate au bien. Et c'est le bien qu'on aime, c'est le bien qui m'attire. Je ne suis pas attiré, finalisé, par la connaissance. La connaissance du bien est nécessaire comme une condition sine qua non. Ça me dispose. Ça me dispose. Comme dit saint Thomas, la beauté est une disposition au mariage. Mais une disposition. Saint Thomas ne dit pas la beauté détermine l'amour d'amitié. Non. Dispose. Donc, en troisième lieu, vient le vrai. Parce que le vrai est fin de l'intelligence. Le vrai est le bien de l'intelligence. Oui, mais ce n'est pas le bien tout court. Ce n'est pas le bien au niveau de l'être. C'est le bien au niveau de ce qui est connu. De ce que je suis capable d'atteindre. Donc, c'est un bien particulier, le vrai. Il n'y a qu'en Dieu. Où le vrai s'identifie au bien. Et cependant, le vrai est bien l'être en acte, bien qu'il ne soit pas adéquat au bien, parce qu'il actue l'intelligence, l'esprit. Et actuer l'esprit n'implique en soi aucune imperfection. Donc le vrai comme tel, c'est l'être en acte, relatif à l'intelligence. Quatrième modalité, les opérations vitales. Alors là, c'est beaucoup plus complexe. les opérations vitales, j'en ai l'expérience. Hein. Voir. J'ai de la joie de voir un beau paysage. Un lever de soleil. Un coucher de soleil. J'ai la voix de voir. Je dis pas que j'ai la voix de voir le brouillard, la pluie. Ça dépend, ça dépend. Il y a des personnes qui aiment de voir la pluie. Ça correspond à l'état de leur âme. Quand ils pleurent, ils aiment bien que tout le monde pleure. Alors, ils aiment bien ça. Il y a des personnes comme ça qui aiment la tristesse du pays. La tristesse de la pluie. Les opérations vitales. Il y a toute la gamme. Alors, les opérations vitales sont la quatrième modalité de l'être en acte au niveau de la vie. Et le mouvement, cinquième modalité au niveau du corps, donc au niveau physique. Alors, je continuerai la fois prochaine de bien voir qu'il ne peut pas y avoir d'autres modalités.